この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Alain Cannes, le parcours est long, oui, malheureusement, parce que plus on vieillit, plus on a travaillé. J'ai commencé en informatique, je suis arrivé à la presse informatique, jeux vidéo, manga, et puis finalement à aujourd'hui, où je dirige une maison d'édition de manga, Pika Édition, une maison importante, sérieuse. Et donc c'est vraiment mon activité principale, mais c'était sympathique de profiter d'être à la fois éditeur, mais aussi un peu auteur, et de connaître de bons co-auteurs pour sortir un livre sur un peu l'histoire du manga et l'histoire du jeu vidéo que nous avons fait.
Je suis Olivier Richard, j'ai commencé en étant journaliste dans la musique et le cinéma. Ensuite, j'ai travaillé à France Télévisions et à MCM et aussi à Media System, tout en continuant à travailler en presse écrite, notamment dans Player One, dans lequel je traitais de jeux vidéo, de manga et de cinéma principalement. J'ai dirigé les programmes d'MCM, d'Europe de TV, de Virgin 17. Et là, je viens d'écrire avec Alain Cannes aux éditions Pika un livre qui s'appelle Les Chroniques de Player One, qui raconte l'histoire du manga et du jeu vidéo en France entre 1990 et 2010.
Le livre s'appelle Les Chroniques de Player One, à l'occasion des 20 ans du lancement du magazine. Dans le dossier de presse, je lisais que c'était le premier magazine dédié aux consoles. Dans ma tête, je pensais au numéro 0 de Console Plus, donc il est sorti avant en fait.
Oui, oui.
Il est sorti quelques mois avant alors.
Oui.
Alors, le numéro 1 de Player One est sorti en septembre 90 et le numéro 0 de Console Plus, le hors-série Tilt, est sorti à l'été 91.
Le groupe à l'époque, qui était les éditions mondiales, avait un magazine qui s'appelait Tilt. Et dans le cadre de ce groupe, ils ont voulu effectivement sortir Console Plus. Ils ont sorti Console Plus. Mais nous, à l'époque, on avait démarré avec Amstrad, avec les revues Amstrad. Et en fait, on a été un peu plus rapide. Et donc, nous avons bien été le premier en termes de date, pendant un certain temps aussi en termes de chiffres. Et donc on a gardé le premier magazine de console de jeux vidéo pendant toute la vie du journal, ce qui énervait énormément tous nos confrères.
La concurrence de l'époque, effectivement. Voilà. Il y avait Sega Nintendo pour les consoles, il y avait Console Plus et Player One pour les magazines de console, alors c'est ça, en quelque sorte.
Absolument. Mais non, il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné, il y a eu Joypad. Et donc en fait, on était trois. Au départ, c'était Console Plus et Player One, mais après, le Joypad a bien marché. Donc, en fait, on était vraiment trois. Et au niveau des consoles, on est resté jusqu'à la fin trois. Majeur.
On fait une digression sur les magazines de consoles, mais s'il y avait de particulier dans Player One, et vous l'avez soulevé il y a juste un instant, c'est que ça ne parlait pas tout à fait que de jeux vidéo. Moi, je me souviens d'articles sur, par exemple, Wayne's World, ou d'articles traitant de la Japanimation. C'était quelque chose qui élargissait vraiment le champ de l'univers lié au Japon et aux jeux vidéo à l'époque. Est-ce que aujourd'hui c'était volontaire ou c'était venu tout seul ?
Non, mais dès le départ, il était prévu. Déjà, cette ouverture existait dans le magazine, le premier magazine lancé par MSE, qui s'appelait Amstrad CPC, dans lequel on parlait de jeux sur CPC, mais aussi de bandes dessinées, de musique, de cinéma, etc. Donc la logique éditoriale est restée la même, c'est-à-dire que pour la rédaction, le jeu s'inscrivait dans un ensemble plus global qu'on appellerait l'entertainment, le divertissement, et c'était tout à fait logique pour la rédaction de traiter, tout en étant un magazine de jeux vidéo, de s'ouvrir au cinéma, à la bande dessinée, et bien entendu à la bande dessinée et au dessin animé japonais, puisque la plupart des jeux vidéo de l'époque venaient du Japon.
Petite précision avant de continuer, Amstrad CPC a cessé sa parution quand Player One a été lancé ?
Non,
il y a eu quand même...
Amstrad CPC a continué encore pendant 3 ans, a cohabité avec Player One pendant 3 ans et s'est arrêté ensuite parce que le CPC d'Amstrad était une machine qui ne connaissait plus d'actualité.
Quel est le sujet sur lequel vous avez travaillé ? Est-ce que c'est simplement une compilation des unes de Player One que vous aviez voulu transformer en quelque sorte en roman, en récit en quelque sorte ? Ou est-ce que vous avez choisi un sujet précis, quelque chose, un fil rouge à toute cette épopée ?
Alors non, c'est absolument pas une compilation de quoi que ce soit de Player One. En fait, c'est le thème 20 ans de jeux vidéo et de manga, c'est le vrai thème. C'est l'histoire, évidemment beaucoup plus orientée sur les années 90-2000, du jeu vidéo et du manga, et de la vie de Player One. Le livre est assez dense puisqu'il y a 320 pages. Ça n'est pas que l'histoire de Player One, c'est l'histoire de Player One dans l'environnement complet, du jeu vidéo d'un côté, du manga de l'autre, avec beaucoup d'interviews, beaucoup d'intervenants. Donc c'est un livre qui est vraiment beaucoup plus un livre entre guillemets d'histoire, mais d'histoire on va dire actuelle ou d'histoire récente, que une compilation de quoi que ce soit de Player One.
C'est de la radio pour ceux qui n'ont pas encore entre leurs mains ou qui ne l'ont pas encore vu. C'est pas simplement un MOOC comme on peut le voir par exemple pour les éditions Pix & Love dont on parle beaucoup. C'est les livres assez illustrés avec des images de jeux vidéo qui reprennent un petit peu le concept des magazines de l'époque. Non, là c'est un véritable livre, j'allais dire avec peu d'images et beaucoup d'histoires.
Le livre comporte 16 pages d'illustrations couleurs et 300 pages environ de texte qui racontent trois histoires. L'histoire du magazine et des gens qui l'ont fait. L'histoire du jeu vidéo en France avec des entretiens avec les patrons de Nintendo, de Sega, de Cryo. Et aussi l'histoire du manga et du dessin animé japonais avec des entretiens avec les gens qui ont pris le risque de l'importer en France au début des années 90. C'est-à-dire Jacques Glénat, Dominique Verret et aussi des cinéastes ou des auteurs de bandes dessinées qui s'inspirent de ce qui se fait en Asie, donc comme Christophe Gans ou Olivier Vatine, et un entretien avec Moebius qui connaît très bien tout ce qui se fait au Japon puisqu'il a travaillé avec les Japonais. Et l'idée étant de montrer l'émergence en France d'une sorte de culture, puisque Player One est sorti l'année de l'apparition d'Akira en France en fait. En 1990, Akira est apparu en France et Player One sortait quelques mois plus tard, comme la Mega Drive la même année et le Game Boy qui sont arrivés en 1990 aussi.
La Super Famicom au Japon aussi, je crois, il me semble aussi. Qui a eu l'idée de sortir ce livre, en tout cas, qui a invité l'autre à travailler avec lui?
Alors, bon, évidemment, moi je suis à la fois peut-être le co-auteur, mais aussi, on va dire, un des personnages du livre. Et en fait, j'ai quand même dirigé pendant 10 ans, un peu plus, Mediasystem Edition. La fin du magazine, la fin de la société m'était restée très clairement en travers du gosier. À la fois pour des raisons évidemment économiques, mais aussi pour des raisons, on va dire, de déception, d'échec, de c'est jamais très agréable de fermer quelque chose qui a vraiment représenté beaucoup pour beaucoup de monde, le lecteur ou ceux qui ont participé. Donc c'est vrai que ça me travaillait depuis un certain temps, de faire d'une façon ou d'une autre revivre revivre cette histoire. Et puis en regardant, en allant beaucoup sur le net, je me suis aperçu qu'effectivement il y avait dans la mémoire de beaucoup de joueurs, beaucoup de lecteurs, beaucoup de personnes, il y avait quand même quelque chose qui existait toujours, une relation. Donc à un moment donné, étant éditeur de livres, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile pour moi de faire de l'édition. Et donc ayant la chance d'avoir un peu de disponibilité d'Olivier Richard, qui lui est un journaliste à la fois remarquable, un très bon écrivain, et surtout qui a une vision très ouverte de tous les types de culture ou de composants de la culture. Donc on s'est trouvé et puis on a travaillé finalement assez efficacement, rapidement, avec beaucoup d'interviews. C'est triste à dire, on était toujours d'accord. Donc voilà, et puis donc c'est sorti et vraiment on est content de l'avoir fait. On espère que ça va plaire, que ça sera lu, ça va durer, mais en tout cas, moi je suis très content, c'est déjà pas mal.
On résume Player One, Nintendo Player, l'émission Player One sur MCM, Manga Player également, il y a eu encore d'autres titres, oui. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment ça s'est arrêté?
Non, ça a marché sur la... Les titres ont marché sur la durée, puisque la société a existé presque 15 ans. Et ensuite, il y a eu une évolution du marché de la presse jeux vidéo. Et on a assisté à un déclin des généralistes. Et d'ailleurs, maintenant, quand on regarde ce qui sort en kiosque, il y a quasiment plus aucun titre qui vend. Les ventes sont, pour la plupart, tournent à moins de 10 000, alors qu'à l'époque, au milieu des années 90, c'était souvent plus de 100 000, pour différentes raisons. Un, en 95, le fait que 95-96, le fait que la PlayStation a pris le pas sur toutes les autres machines, ce qui a permis au magazine officiel PlayStation de prendre le pas sur quasiment tous les généralistes, puisqu'ils vendaient plus de 100 000, et parce que les gens s'intéressaient à acheter essentiellement des PlayStation. Entre 96 et 97, c'est vraiment l'ère PlayStation. Et tous les magazines généralistes de l'époque connaissent une baisse sensible de ventes, parce qu'en fait les gens, quitte à acheter un magazine, ils vont acheter un magazine 100% consacré à la machine qu'ils détiennent. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le second paramètre, et c'est l'émergence d'Internet, et là on rejoint la crise générale de la presse, puisqu'elle est en phase de mutation. Donc ça n'a pas aidé les ventes des magazines de jeux vidéo. On assiste au même phénomène dans la presse cinéma d'ailleurs. Et le troisième paramètre, c'est différents problèmes conjoncturels qu'a rencontré MSE, qui s'additionnant à ces problèmes structurels ont fait que la société a disparu et a tout de suite été remplacée par Pika, parce que les patrons de MSE estimait à juste titre d'ailleurs que le marché du manga allait connaître un essor fulgurant en France. Et 10 ans après, on voit que c'est tout à fait vrai, puisqu'il se vend en France environ 12 millions de mangas par an. Donc c'est un phénomène colossal.
Pour la réalisation de ce livre, tout ça vous a pris combien de temps d'écriture?
On en a parlé en juin et on a terminé le bouquin début janvier, mais le travail en lui-même a pris 4 mois et demi.
Vous avez peut-être dû réinviter d'anciens collaborateurs ou d'anciens invités que vous aviez eu dans vos anciens numéros. Vous avez peut-être repassé en revue les anciens acteurs avec lesquels vous avez travaillé, non ?
Oui, bien entendu, on a regardé tout ce qui était contenu des magazines de l'époque. Donc on a regardé les sommaires des 104 numéros de Player One et on a interviewé 53 personnes uniquement pour le livre. Donc des interviews qui sont inédites, donc des interviews de cinéastes, des interviews de professionnels du jeu vidéo, des interviews de professionnels du manga, de l'animation japonaise, des anciens journalistes, des anciens collaborateurs du magazine, des dessinateurs de bandes dessinées. Donc tout ça, ça aboutit à plus de 50 entretiens. L'idée étant de laisser la parole aux acteurs de l'histoire.
Est-ce qu'il y a des petites anecdotes des petites anecdotes de rédaction qu'on peut trouver dans le livre, justement, sur votre vie à la rédac, votre vie de rédac, si j'ose dire?
Oui, c'était une ambiance très, très potage, puisque la rédaction au début de Player One avait moins de 25 ans de moyenne d'âge et les testeurs avaient 21 ans de moyenne d'âge, donc pour beaucoup c'était leur premier job et il y avait une ambiance qui était vraiment hyper sympa, et d'ailleurs pour la plupart ils l'ont jamais retrouvé dans d'autres rédactions. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que sans s'en rendre compte, ces gens-là en fait participaient à un essor et découvraient des choses, et quasiment tous les mois on avait soit un jeu complètement révolutionnaire, soit une nouvelle machine, soit une nouvelle BD, soit un nouveau dessins animés. Et c'était une époque où il n'y avait pas encore Internet. Donc c'était beaucoup plus difficile. Enfin, on ne s'en rendait pas compte. Mais chaque fois qu'on réussissait à récupérer quelque chose, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait soit aller acheter en import, soit trouver un copain qui partait au Japon, soit se le procurer de façon pas limite clandestine. Mais c'était un peu Indiana Jones. Il y avait des déceptions terribles. Mais on a assisté, on a vu le Jurassic Park, on a vu Terminator 2, on a vu le développement de l'image de synthèse, on a vu l'arrivée des 16 bits, des 32 bits, des 64 bits, on a vu la traduction d'Akira, on a vu la traduction Dragon Ball, et on a eu la joie de voir qu'il se passait plein de choses. Et maintenant, s'il y a 200 000 personnes qui se réunissent en cumul pendant les deux Japan Expo, c'est parce qu'il y a eu des gens comme ces journalistes, et les autres d'ailleurs, parce qu'après il y a eu Joypad et compagnie, qui un petit peu ont travaillé pour que ça soit connu en France.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canyon 102.2 FM.